Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, j'espère que vous n'aviez pas perdu d'oreille nos voix. On était un petit peu absents ces temps-ci. Donc voilà, c'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de l'Union communiste libertaire. À tout de suite. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Donc, c'est Idées Noires, comme tous les mercredis de 20h à 21h, avec notre émission de l'UCL, l'Union communiste libertaire, avec ce soir Julien et Daniel, donc au micro. Comme je disais tout à l'heure, on s'était perdu un peu de vue, là.
Eh tout ben, à fait, on, là, on s'est retrouvés.
Hein, on a retrouvé le chemin. On a retrouvé le chemin,
ouais. Ouais, tout va bien.
Allez, des annonces peut-être.
On va faire comme si on était comme on était début septembre.
On a perdu les habitudes. Hein,
on va faire comme si on était début septembre.
Tout à fait.
On fait comme ça.
Ouais,
et puis on en profite pour faire un petit coucou à un camarade un peu loin d'ici, à quelques heures d'avion, qui a priori nous écoute dans son hamac.
D'accord.
Donc voilà, coucou à toi.
Salut mon petit gars.
Quelques annonces du coup, deux principalement. On prend un peu d'avance parce qu'il y aura une activité, un café libertaire organisé par le groupe de Lyon de l'Union communiste libertaire la semaine prochaine, samedi prochain, le samedi 9 novembre à 17h. C'est bien évidemment à la librairie La Plume Noire au 8 rue Diderot. Et donc on vous invite à un café discussion autour du thème de la lutte LGBTI, quelle stratégie utiliser, quel type d'organisation faut-il former, etc. etc. Donc on vous invite dès maintenant à réserver votre samedi 9 novembre à 17h pour venir nous rendre visite et pour voir, voilà, échanger sur le sujet à la librairie La Plume Noire. Deuxième petite annonce, et là je prends aussi un petit peu d'avance, peut-être qu'on y reviendra plus tard, c'est par rapport au festival Brisons le silence, qui arrive bientôt, puisque ça se passera au mois de novembre, du 15 au 30 novembre exactement, avec du coup en point d'ogre la manifestation du 25 novembre. Donc le festival Brisons le silence est donc un rendez-vous annuel incontournable à Lyon. Il existe depuis la création de l'association Filaction en 2005. Il permet de sensibiliser chaque année plus de 5000 personnes. Toute l'équipe, bénévoles et salariés, est mobilisée pour rendre visible et dénoncer les violences faites aux femmes et aux minorités de genre, dont celles que l'on nomme violences conjugales. Les objectifs de ce festival, c'est quoi? C'est mieux comprendre les violences sexistes et conjugales afin de mieux les prévenir. Il permet à la fois de dénoncer et de sensibiliser aux violences faites aux femmes et aux minorités de gens. Il contribue donc à rendre visibles ces violences sexistes, à briser le tabou autour des violences conjugales, à libérer la parole, à montrer notre soutien à toutes les femmes et minorités de genre qui vivent des violences, rencontrer, discuter, échanger, etc. Donc avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 25 novembre comme date symbolique, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des minorités de genre, où il y a toujours une manifestation bien évidemment à laquelle l'UCL participera, et du coup avec un petit happening des femmes en blanc comme d'habitude. On a envie de dire, mais du coup c'est très bien comme ça, parce que c'est un des moments forts du festival Brisons le silence. Donc ce happening a lieu juste avant la manifestation, et ça on en reparlera tranquillement quelques émissions avant le 25 novembre. Par rapport au programme, il y a pas mal de choses assez intéressantes, notamment des balades urbaines. Les balades urbaines, c'est quoi? C'est leur dénomination, c'est Où sont les femmes? Ça a été créé dans l'idée de réintégrer les femmes souvent oubliées dans le matrimoine local lyonnais, hein, pas patrimoine mais bien matrimoine. Artistes, poétesses, réalisatrices, militantes, résistantes ou encore gastronomes, venez le découvrir. Et donc il y a plusieurs balades urbaines, le 16 novembre, le 17, le 23, le 26 et le 24 novembre. Il y a aussi des moments réservés aux scolaires, et ça c'est hyper important, puisque le lundi 18 et le mardi 19, alors ça se passe sur l'un au Ciné du Cher dans le 9e et dans l'autre à la mairie du 1er arrondissement. Sur la première date du 18, c'est un ciné-débat qui s'appelle Les Petits Mâles. C'est Ciné du Cher et donc Filaction qui propose un ciné-débat à destination des scolaires sur la base d'un documentaire abordant la perception par les jeunes des masculinités et du sexisme. Et le 19, bah, c'est du théâtre, le dos au mur, avec une nouvelle création portant sur la construction de la violence masculine, toujours à destination des scolaires. Et ensuite, il y a un programme plus vaste, bien évidemment, avec le 15 à 18h30 à la mairie du 9e, bah, la soirée d'ouverture des 20 ans du festival, une exposition le samedi 16 à partir de 19h avec un vernissage, ça se passe au Rita Plage, cours Tolstoï à Villeurbanne. Et ensuite, ça s'enchaîne, le 19 novembre, un ciné-débat Les Menteuses, un stand-up aussi le mardi 19 à 20h30 contre le harcèlement de rue à la Maison pour tous des Rancy. Un ciné-débat le 20 novembre, projection de Casser debout. Ça c'est l'AFA et le Centre Intimagie Auvergne-Rhône-Alpes et Filaction qui vous invitent à la projection donc, de ce film documentaire. Du coup, ce film retrace l'engagement de Marie Rabatel contre les violences sexuelles à l'égard des personnes en situation de handicap. Et la projection sera suivie d'un échange avec le public. Il y a aussi une scène ouverte de slam le 20 novembre à la Miaulerie. Une table ronde violence sexiste et sexuelle pour une éducation féministe des enfants et des adolescentes et adolescents. Ça se passera à 19h et c'est à l'ENS. Le 22 novembre, un ciné-débat, projection Parle-moi de nous et atelier pancarte. Et ça continue comme ça, on y reviendra du coup prochainement. Donc la manifestation, donc le 25, ça tombe un lundi, donc la grande manifestation aura lieu le samedi 23 novembre avec bien évidemment donc l'apnée des femmes en blanc. Et puis encore du théâtre, de l'humour aussi. Pardon, au CCVA, du coup avec un « On ne peut plus rien dire ». Donc ça peut être pas mal aussi à aller voir. Artistes engagés, Loutre Trignon, Loam Sinso et Amélie Coispel qui dégomment le sexisme et les normes de genre à travers leur spectacle de stand-up. Il y aura aussi un concert, la colo des canuts et des canutes. Ça, c'est à la TBC dans le premier. Un concert encore, soirée de clôture festive, et ça se passera à l'Opéra National de Lyon, en place de la Comédie, et encore du théâtre Nos Fiertés le 30 novembre. Donc voilà pour ce festival, brisons le silence, on reviendra sûrement dessus, c'est un moment assez important au niveau local, et ça permet aussi d'introduire cette grosse manifestation qui aura lieu le 23 novembre. Allez, on y va sur une première petite page.
Je vous en prie.
20h08, c'est parti. Allez, un petit nœud à la tête, si vous voulez bien. Avec un petit article de rapport de force. Il viendra après sur deux textes publics qui ont été publiés par différents collectifs. Un par des collectifs féministes et un autre par des individus plutôt qui l'ont signé. C'est par rapport au petit nœud à la tête qui va avoir lieu, notamment dans les syndicats, pour les syndicalistes. Face à demain, il y a le Rassemblement National qui va présenter sa niche parlementaire. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire sur l'Assemblée nationale? Ben, ils mettront l'abrogation de la réforme des retraites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc c'était clairement un piège tendu à la gauche et au mouvement social qui se trouve face à un dilemme. Comment maintenir le cordon sanitaire face à l'extrême droite tout en réaffirmant la volonté de faire tomber la réforme? Depuis quelques semaines, une proposition de loi, PPL, du Rassemblement National, agite les esprits de gauche. Donc, elle propose l'abrogation du report progressif de l'âge de départ en retraite de 62 à 64 ans, ainsi que de l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Donc, en gros, la réforme contre laquelle on s'est battu pendant des mois et des mois. En bref, donc l'abrogation de cette dernière réforme. Le parti d'extrême droite donc, va la mettre à l'ordre du jour des séances publiques de l'Assemblée nationale demain, le 31 octobre. À première vue, la proposition est séduisante puisque les députés de gauche se sont battus contre la réforme des retraites en 2023. Mais elle exige de rompre le cordon sanitaire consistant à ne voter aucune loi émanant de l'extrême droite. La majorité des députés du Nouveau Front Populaire s'y refuse donc. D'abord le groupe socialiste qui a déclaré ne pas voter, sans préciser s'il s'agit d'un vote contre ou d'une abstention. Donc ils ne voteront pas le texte du RN, ils ont dit ça dès le 24 septembre. Puis le groupe de la France Insoumise, qui ce 23 octobre a accusé dans un communiqué le projet de loi de porter en creux le démantèlement de la sécurité sociale, une position appuyée par une note de blog de M. Mélenchon. De son côté, le groupe écologiste n'a à cette heure pas de position commune sur le sujet. Et enfin, le groupe gauche démocrate et républicaine, qui comprend les 9 députés communistes, a déclaré ne pas donner de position commune. Si ce sont bien les députés qui votent, le débat, lui, s'est exporté hors de l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 16 octobre, une tribune parue dans Le Média, signée par différents intellectuels de gauche, comme l'économiste Frédéric Lordon, le sociologue Bernard Friot ou encore la prix Nobel de littérature Annie Ernaux, a appelé les députés du NFP à voter le texte du RN. Argument invoqué, ne pas laisser le monopole de la lutte contre le néolibéralisme et la Macronie au RN. Fer de lance de l'opposition à la réforme des retraites, les syndicats ont également été amenés à se positionner. Et là, on voit que c'est un petit peu compliqué, qu'on voit que ça a remis un peu peut-être dans les bases aussi des syndicats. On a notamment Denis Gravioul, membre du bureau confédéral de la CGT, qui dit « J'ai du mal à comprendre les camarades qui disent qu'il faut voter cette proposition de loi et je suis prêt à mener le débat avec eux. » Parce qu'en fait, les deux principales confédérations, CFDT et CGT, ont ainsi décidé d'affirmer leur opposition au texte du RN, avant tout parce qu'il n'apparaît pas comme un moyen crédible de faire tomber la réforme des retraites. En effet, la proposition de loi RN est une arnaque. Qu'elle soit votée ou non à l'Assemblée, son parcours ne durera pas plus de 24 heures. Elle ne sera pas reprise au Sénat puisque le RN n'y dispose d'aucun groupe. Même discours du côté de la CFDT, c'est une niche qui n'a pas de parcours législatif, elle ne sera jamais mise à l'ordre à l'ordre du jour du Sénat et il n'y aura jamais de vote. Donc voilà. Les syndicats soulignent un autre point de désaccord technique, par contre, c'est le financement. En gros, le RN veut financer sa proposition de loi par une taxe sur le tabac. C'est typiquement ce que l'on propose quand on n'a aucune volonté réelle de financer une réforme, tacle le CGTiste. Cette taxe sur le tabac montre bien qu'on est sur une simple mesure d'affichage. Si on la prenait au sérieux, cela voudrait dire qu'il faudrait tripler le prix du paquet de cigarettes et que le nombre de fumeurs reste constant. Le financement bancal de la proposition de loi du RN l'exposerait en outre à l'article 40 de la Constitution. Ce dernier empêche les parlementaires de proposer des lois qui diminuent les ressources publiques et peut-être mobilisées par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Enfin, les deux syndicalistes rappellent que le financement du système des retraites ne doit, selon eux, pas être soumis aux aléas d'une taxe, mais bien financé par le travail salarié et la cotisation. Donc, syndicats et organisations patronales participaient d'ailleurs à une audition à l'Assemblée nationale le 21 octobre pour présenter des pistes qui permettraient de financer l'abrogation de la réforme. Ainsi, la CGT préfère miser sur la proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites qui sera portée par les différentes composantes du nouveau Front populaire. Cette fois, il y a un parcours. La proposition de loi et de la gauche sera présentée le 28 novembre à l'occasion d'une niche parlementaire de la FI. Elle sera reprise le 23 janvier au Sénat par le groupe communiste et reviendra à l'Assemblée le 6 février grâce aux écologistes. De son côté, la CFDT analyse encore la proposition LFI. Certes, à la différence de celle du RN, ce n'est pas une voie sans issue, mais nous devons encore regarder en détail quel financement est proposé par LFI avant de nous prononcer. Le Rassemblement, globalement, se fout de la réforme des retraites. Pire, des militants d'extrême droite ont physiquement donc attaqué des piquets de grève devant les universités, par exemple, se rangeant ainsi derrière les défenseurs de cette réforme. Ça, c'est Julie Ferroua, qui est co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire, qui le dit. Plusieurs syndicalistes rappellent également le retournement de veste magistral de Jordan Bardella lors de la dernière campagne législative. Se croyant déjà Premier ministre, le président du Rassemblement national est alors revenu sur sa promesse d'abroger la réforme des retraites au nom d'une prétendue crédibilité économique. Malgré tout, dénoncer l'imposture sociale du RN ne suffit toujours pas. En bureau national, donc au niveau de Solidaire, début octobre, nous n'avons pas trouvé une forme d'expression aussi claire qu'à la CGT. Des structures nous ont fait remonter la volonté des salariés de voter toutes les niches qui proposent une abrogation de la réforme des retraites. Pour certains salariés, le RN est banalisé et ne pas voter une loi qui les empêcherait de travailler 6 mois ou un an de plus alors qu'ils sont déjà cassés par leur travail est difficilement compréhensible. Donc Solidaire, pour l'instant, en tout cas, n'a pas de consigne claire en défaveur du vote. La syndicaliste analyse aussi, cela dit aussi quelque chose de nos faiblesses. On manque clairement de temps et de moyens pour convaincre les salariés que cette niche est un simple coup de com' qui va s'arrêter. Et en face, on a un parti d'extrême droite qui se prépare depuis des années. Si Solidaire prépare un texte dénonçant la stratégie pernicieuse du RN, il y a aussi Visa, le Vigilance Intersyndicale Antifasciste, qui prépare aussi un texte, un argumentaire là-dessus. Bah, d'autres syndicats préfèrent rester muets. Force Ouvrière, mais ça c'est pas très étonnant, par exemple, hein, qui refuse de se positionner. Ils disent, le RN fait une proposition de loi qui correspond à une abrogation de la dernière réforme des retraites, dont acte, tranche laconique Michel Bogas, secrétaire confédéral de Force Ouvrière. Sa position se veut conforme à celle tenue lors des dernières élections présidentielles et législatives, la troisième organisation syndicale du pays, refusant de donner des consignes de vote, quitte à ne pas se prononcer contre le Rassemblement National. Il y a des syndicats où cette question est compliquée, puisqu'il y a une vraie base d'adhérents qui votent RN. Les prises de position contre l'extrême droite sont aussi difficiles à obtenir dans les confédérations qui syndiquent fortement des policiers, confie un cadre syndical. Tu m'étonnes. À la CFDT, la décision donc de s'opposer à la proposition de loi du Rassemblement National sur les retraites a été prise lors d'un bureau national mi-octobre. Aucun désaccord majeur n'a émergé alors et la décision a été prise de ne pas se laisser dicter de mauvaises solutions par d'autres. À la CGT, la position a été débattue à la Commission exécutive confédérale, le CCN, ne se réunissant que début novembre. Donc on verra ça. Donc je voulais vous parler de deux textes, mais il y en a un qui a déjà été un petit peu parlé sur le premier texte. Est-ce que j'ai mélangé dans mes papiers, je ne sais pas, parce qu'il y en avait une qui émanait d'un collectif féministe qui, elle, plutôt appelait du coup à voter du coup la loi RN. Et il y en avait une autre dont on parlait dans l'article, c'était celle du coup notamment de certains économistes, dont Friot. Donc je ne sais plus où j'ai mis tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est de plutôt de faire peut-être une première petite phase musicale, parce que a priori, j'ai pas la bonne dans la main, donc je vais rechercher celle que j'avais, puis je vous la lirai peut-être après, après la première phase de lutte sociale. On fait la petite pause musicale.
En effet, je suis prêt pour ça.
Bah, j'ai pris un peu de cours, je suis désolé, mais voilà.
Oui, non,
ah, je l'ai retrouvé.
Ah, bon, alors.
Bah, j'y vais vite fait.
Allez, allez.
C'est pas très long, il y a une petite page.
Allez.
Donc voilà, et le titre de cette tribune, voilà, de militantes féministes, c'est pour que l'abrogation de la réforme des retraites soit notre victoire. Militantes féministes ou alliées, syndicalistes, militantes, militantes politiques dans les forces du nouveau Front populaire, nous avons mené la bataille sans relâche contre la réforme des retraites et durant les législatives contre le RN et Macron. Nous appelons donc les députés du NFP à voter l'abrogation de la réforme des retraites proposée dans la niche RN, donc le 31 octobre demain. Nous ne sommes pas dupes, le RN est en train de mener une campagne de disqualification de la gauche. Nous, militantes féministes et alliées syndicalistes, travailleuses ou privées d'emploi, avons bataillé durant des mois contre cette réforme des retraites imposée par Macron et le gouvernement Borne en 2023. Nous avons milité pendant les législatives contre l'extrême droite, et la droite aussi, et appelé à voter pour le nouveau Front populaire. La mobilisation massive a permis au NFP d'arriver en tête aux législatives avec le résultat que l'on connaît. Macron a nommé un premier ministre illégitime, adoubé par l'extrême droite et qui promet une politique d'austérité toujours plus féroce contre nous. Donc nous le savons par rapport à cette niche du RN. Ils ne seront jamais ni du côté des travailleurs, travailleuses, ni du côté des peuples. Nous ne sommes pas dupes. Le RN, cynique, usurpateur, n'a qu'un but, disqualifier le NFP auprès de ses électeurs et électrices. Néanmoins, nous appelons l'ensemble des députés donc du NFP à voter pour cette loi déposée opportunément dans la niche parlementaire du RN. Il s'agit d'abroger cette réforme des retraites contre laquelle IL se sont battus, dénonçant à juste titre son caractère aussi injuste qu'injustifié. Nous rappelons que les femmes, minorités de genre, les personnes précaires, les travailleuses, travailleurs pauvres sont les plus lourdement impactées par cette réforme passée en force par 49.3, et cela contre l'avis de 93% des actifs et actives. Les députés NFP ne doivent pas céder à des postures morales qui n'ont pas lieu d'être quand nos vies sont en jeu. Nos vies que Macron et ses collaborateurs sacrifice sans vergogne. Nous leur demandons de ne pas tomber dans le piège grossier tendu par le RN, ce parti en tout point compatible avec la politique de violence sociale et économique menée par Macron et ses gouvernements successifs. Nous leur demandons de voter l'abrogation de cette réforme pour répondre à l'exigence populaire, au risque de se couper d'une grande partie de l'électorat et de la population. Il ne s'agit pas là de normaliser le RN contre lequel nous continuerons à lutter comme nous l'avons toujours fait, mais de répondre à l'urgence sociale. Nous pouvons décider que l'abrogation de la réforme des retraites soit notre victoire contre Macron. Donc voilà, ce petit tribune, du coup, que je vous encourage. Vous allez voir un petit peu sur Mediapart, sur Le Média, il y a plusieurs tribunes qui sont sorties. Alors ça fait un peu mal à la tête, parce que du coup, effectivement, quelle est la bonne solution? Bah ça, toujours compliqué. Ouais, je pense qu'il y a des discussions un petit peu dans tous les syndicats, dans tous les groupes politiques, pour savoir que faire face à cette situation. Mais du coup, voilà, on espère que quand même, on verra ce qui se passe demain pendant la niche, déjà, parce que je crois que le vote va être directement sur cette journée-là, il me semble, ou peut-être le lendemain. Donc on verra ça, on suivra ça de près, puis on en reparlera très vite de toute manière, parce que ça peut avoir une incidence très concrète très rapidement. Donc voilà pour D'accord. cette tribune retrouvée.
Très bien.
Et on va cette fois-ci faire la petite pause musicale.
Alors, petite pause musicale, j'ai préparé pour ce soir du régional. On va commencer par on va entendre un texte chanté en provençal.
Allez-y.
Alors, s'il y en a qui connaissent le provençal, ils traduiront. Alors, ça s'appelle La Libertat, hein, c'est le titre, et c'est interprété par le chœur du Lantaro.
Eh ben, allons-y.
Yeah.
Voici donc à l'écoute de Radio Canu. Nous n'avons pas déménagé, nous sommes toujours sur Lyon pour l'émission Idées Noires des militantes et militants de l'Union communiste libertaire, donc avec cette petite chanson en provençal qui parlait de liberté, je pense, hein, a priori. Hein, j'ai eu des infos par téléphone d'un camarade qui m'a dit voilà, qu'il avait.
Je ne prononce pas le T à la fin de Libertat, mais je n'ai pas tout dit. En fait, c'est en lien avec la Commune de Paris,
oui.
Et c'est un morceau qui se trouve sur le CD de l'album que j'ai en main, La Commune refleurira. Donc voilà, du provençal.
Merci bien pour ces précisions. Et puis donc on va enchaîner avec une page de lutte sociale, du coup des luttes qui attendaient depuis près de deux mois à sortir du micro de Radio Canu, et ça y est, c'est parti.
Ça piétinait.
Faites-vous plaisir.
Ça piétinait, ouais. On a été absent un petit peu pendant deux mois. Là, c'est un peu fou, mais enfin, n'empêche que j'ai quand même, dans mon panier, j'ai du juillet, du août, du septembre, et on va attaquer donc l'octobre, là, parce que c'est quand même plus récent, avec, pour commencer, le Ménitré, c'est en Maine-et-Loire, c'était le 3 octobre, et ça concerne les salariés de Villemorin Mikado. Auparavant, il y a très longtemps, ça s'appelait Villemorin-Andrieux, pour s'il y a des anciens... à l'écoute, donc pour un mouvement donc de grève de la CFDT et de FO chez le semencier donc du groupe Limagrain, oui, parce qu'ils ont été rachetés quand même depuis le temps, également sur le site de Le Denon, c'est dans le Gard. Alors ils dénoncent, ces grévistes, une direction sourde sur l'augmentation des salaires après trois réunions de négociations annuelles obligatoires et deux débrayages à 150 personnes. La proposition, c'est 3% en général et en individuel. La demande syndicale, elle, est de 3,5%. Un petit 0,5% quand même qui a son importance quand on touche le SMIC. Notant au passage, donc, si vous voulez noter, entre autres, le chiffre d'affaires et les bénéfices de Villemorin et compagnie maintenant, ben, c'est un chiffre d'affaires à près de 1,5 milliard. C'est un chiffre de 2020-2021 en euros. Et pour l'historique, je dirais que c'est la toute première boutique a été créée en, tenez-vous bien, en 1743 à Paris.
Pas
quand
mal.
Même, hein. Bon. Ça valait le coup de le dire. Aurillac, dans le Cantal, le 3-10 également, avec une mobilisation à la CPAM.
Ouais.
Non, je voulais faire je voulais faire un effet, mais non, ça n'a pas marché. À la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, les salariés sont les salariés du service médical qui, donc ce service doit être supprimé, qui était en colère donc de cette suppression prochaine. Les grévistes du Cantal marquent leur désapprobation. Ah bah oui, bah écoute, j'ai perdu un peu le sens, l'entraînement, hein, je me suis pas entraîné. Donc la désapprobation appelle à la vigilance sur le fort impact sur les droits des assurés. Alors il y avait un piquet de grève quand même devant l'établissement avec une quinzaine de personnes pour exprimer donc leur désaccord. Je dois dire que c'est un mouvement national aussi, hein, il n'y avait pas que donc dans le Cantal. sur le projet de réorganisation de la Caisse nationale, donc la CNAM, cette fois je l'ai dit, d'ici avril 2025 pour une fusion du service médical qui menace donc l'indépendance technique et le respect du secret médical selon leurs propos. Et l'impartialité, évidemment, des décisions quand il s'agit de maladies professionnelles, d'accidents du travail, etc., etc. À Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, le 3-10 également, avec une manifestation du syndicat du groupe Solidaire, des salariés des hôtels Campanile et Première Classe, hein, c'est leur raison sociale, hein, il y avait 16 personnes, et des manifestations quotidiennes devant les hôtels en question, cela depuis le 19 août, pour une collègue licenciée pour abandon de poste. Alors en réalité, elle était en congé, cette personne, et elle a égaré ses papiers au Mali, et ça a amené évidemment pas mal de complications. La direction de Louvre Hôtel, donc le groupe propriétaire des hôtels en question, invoque une absence injustifiée de 2 mois. Selon la CGT du 92, l'employé a prévenu son employeur. De même, les salariés, en même temps, ils vont d'une pierre deux coups, ils exigent des salaires augmentés et des primes également augmentées. La Ferté-sous-Jouarre, c'est en Seine-et-Marne, le 3-10, avec une manifestation des salariés de l'entreprise de traitement des eaux usées, SOR, S-A-U-R, dénonce les problèmes de gestion des employés, selon la CGT. Alors, SOR fournit également de l'eau potable, j'espère que ça passe pas dans le même tuyau, avec un effectif, disons, dégraissé, et un manque de moyens pour ceux et celles qui sont en place et qui doivent donc bosser, explique un délégué syndical. Alors, mal-être et colère, c'est le régime actuel. Alors, pas de dialogue social, aucune logique dans les choix de la direction. Et en même temps, ici aussi, d'autres sites étaient en grève le même jour. Bogny-sur-Meuse, c'est dans les Ardennes, c'était le 2 octobre avec l'atelier de Janves. L'atelier de Janves appartient désormais depuis 2018 au groupe Valor. Donc 127 salariés qui ont, on peut dire, la tête sur le bio. Fermeture à l'horizon, sans vraiment obtenir d'informations sur cet horizon qui s'annonce triste. De même à Vouziers, également dans les Ardennes. 250 personnes au total dans cette forge d'estampage qui existe depuis 1925, donc ça fait un siècle, pour l'industrie automobile et l'agriculture. Traduction, eh bien, c'est un redressement judiciaire en fait qui touche cette société et une procédure donc de sauvegarde qui est dans les mains du tribunal de Sedan. Il cherche le ou les repreneurs, selon la CGT. Alors il y a la grève qui est en place, évidemment. Le groupe Valor est en fait lui aussi entre les mains de personnes que j'aime pas trop, qu'on n'aime pas trop à l'UCL, c'est du fonds d'investissement Mutares depuis 2023. À Perpignan, maintenant dans les Pyrénées-Orientales, eh ben, c'était le 2-10 également avec les personnels salariés de l'association L'Enfance Catalane qui sont également dans l'inquiétude. 40 personnes en rassemblement au siège de l'association. Ici, c'est un déficit de 500 000 euros. Aïe. C'est le conseil départemental qui patronne, enfin qui finance cette association et qui se prépare donc à des restructurations selon le syndicat CGT et Sud. 500 000, c'est sur 2 années, hein, je précise, 2023 et 2024. Le budget annuel est entre 10 et 12 millions d'euros, financé à 80% par les Pyrénées-Orientales. L'association est une structure à vocation sociale et dénoncer en fait également des mauvais choix de gestion, un manque de concertation et la suppression d'acquis sociaux et aussi les conditions de travail qui sont déplorables. Sotteville-lès-Rouen en Seine-Maritime. Alors, être jeté comme un Kleenex, on connaît l'expression, hein, voilà, être jeté comme un Kleenex, c'est fait, parce que c'est chez Kleenex précisément, du groupe Kimberly Clark. 100 ans donc aussi ce 8 octobre et la société, la direction a décidé depuis mars de restructurer. Et c'est à la mode même dans les mouchoirs papier, hein, il faut se rendre à l'évidence. Enfin, selon la direction, on réorganise, je cite, hein, la direction réorganise au niveau de la stratégie au 1er octobre. Alors selon la CGT qui enquête, 5000 emplois supprimés au niveau international. Alors, des ragots, selon la direction, 156 salariés du côté de Rouen en grève depuis le 2 octobre, bien décidés à faire pleurer Kimberly, c'est bon pour la production des mouchoirs et la vente des mouchoirs, à virer. Inquiétude pour les salariés depuis un an, un nouveau. Alors, c'est depuis un an que les inquiétudes ont commencé, il y a une année. Un nouveau directeur est en poste qui serait un spécialiste de la fermeture de sites. De plus, il remet en cause certains avantages, comme les primes. Et à Sotteville-lès-Rouen, on plie les mouchoirs 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, depuis que monsieur est en place et a voulu instaurer les congés imposés. Alors ici aussi, on a un chiffre d'affaires à Sotteville assez croquignolet, 82 millions d'euros en 2023. C'est le chiffre d'affaires. Pont-l'Évêque dans le Calvados, cette fois c'est Tipiac. Mais alors Tipiac, panification, grève le 8-10 avec une dégradation des conditions de travail, 50 grévistes sur 92 qui est l'effectif en CDI et CDD selon la CGT et FO, 6 jours sur 7 de travail depuis septembre, revalorisation salariale, c'est les revendications, 5% pour tous et toutes. La direction se fait tirer l'oreille pour donner une réponse. À Pont-l'Évêque, on produit des croutons. Rien à voir avec l'âge des dirigeants, mais c'est les ouvriers de nuit qui ont ouvert le bal pour mettre fin aux cadences infernales de production de bouchers à la reine avec un effectif turnover. Et puis ensuite à Reims, on prend le train, hein, on voyage dans l'Hexagone. Donc à Reims, dans la Marne, deux mois sans salaire. C'est la situation des travailleuses d'une résidence senior, les Girondières, c'est son nom, du groupe Réside Études Senior, qui est en redressement judiciaire. Alors c'est la grève depuis le 12 octobre. Avec, il faut dire qu'ils ne touchent pas l'argent, hein. Salaire net, c'est 1300 euros et pas de réponse aux questions alors que le personnel est à son poste. Les résidents et résidentes s'inquiètent dans les 78 résidences françaises et 1250 employés qui auront peut-être une réponse le 4 novembre. Coût du séjour pour résidents, 3000 euros mensuels, donc par personne. La suite, donc, je pense qu'on l'aura dans le courant du mois prochain. Fleury-sur-Orne, dans le Calvados, le 8-10, avec une grève des salariés des foyers, au pluriel, APF, donc l'Association des paralysés de France. Hein. 15 personnes en grève durant 3 heures, donc à Fleury-sur-Orne, et dénoncent donc leurs conditions de travail au foyer Soleil. C'est son nom, recevant 70 personnes en situation de handicap. L'APF est en difficulté économique, va supprimer 300 à 400 postes d'aide soignante au niveau national pour revenir à l'équilibre financier. Déjà, les équipes de soins font face à un manque de personnel. Ça, ce sont des infos de la CGT et de FO sur le plan social. Donc aussi, il y a eu aussi des grèves à Douvres, la Délivrande également dans le Calvados. Et puis pour terminer cette première page, avec un EHPAD, hein, c'est à Trébeurden, dans les Côtes d'Armor. Il s'agit du foyer du Gavel, c'était le 10 octobre, avec la douzaine de salariés soutenus par des résidents et des résidentes, hein, on le voit souvent ça, en grève donc à l'EHPAD de la ville pour une heure avec la CFDT. Il dénonce les moyens qui s'amenuisent et qui ne favorisent pas le confort de vie des personnes résidentes. Autrement dit, les conditions de travail, Donc toilette, chambre à faire, ménage, cuisine, médicaments, distribution de médicaments et soins divers. Le climat est anxiogène, dénoncé par tout le monde. Déficit de personnel, mais aussi de 300 000 à 400 000 euros. Et l'ARS qui pousse donc au remplissage, ça c'est navrant, mais alors vraiment, au remplissage, c'est-à-dire dès qu'il y a une personne qui disparaît, décède, ouais, évidemment, il faut remplir le lit par une autre qui attend probablement à la porte. Selon donc, ouais, les infos de la CFDT, voilà pour donc les places libérées. Ça me fout. Peut-être que parce que je suis proche aussi.
Non, t'es con.
Ah, faut rigoler un peu parce que ouais. Franchement, là, sinon, on se met. Voilà pour cette première page, mon camarade.
Ouais, mais du coup, j'en rajoute une petite parce que du coup, oui, elle nous vient de loin avec des infos sur un mouvement de grève aujourd'hui de l'autre côté. L'Atlantique en Argentine, du coup, avec une grève aujourd'hui des transports, notamment camionneurs et des trains, demain des bus. Voilà, il y a à peu près 500 rassemblements et blocages de routes dans tout le pays. Et c'est soutenu aussi, ce mouvement de grève, par les organisations sociales qui, pour une journée nationale de lutte contre la faim. C'est globalement contre les politiques d'austérité de Javier Milei et pour une hausse des salaires dans les secteurs concernés pour ceux et celles qui sont mis en grève. Ouais. Aujourd'hui, les aéroports aussi sont presque fermés. Donc voilà, le petit point international est fait, camarades. Et puis on n'hésitera pas à en faire plus régulièrement, et puis notamment de faire, je pense, un gros point de ce qui se passe là-bas avec Milei qui casse tout, tous les services publics et autres en Argentine et qui appauvrit la population. De quoi voulait-on vous parler aussi ? Oui, date assez importante aussi pour celles et ceux qui habitent là-bas, mais globalement aussi pour pratiquement le monde entier. C'est les élections aux États-Unis qui vont se tenir la semaine prochaine, le 5 novembre, si je ne dis pas de bêtises, le 4 ou 5 novembre, avec du coup soit, parce que les sondages sont incapables de prédire quoi que ce soit pour le moment, il y a la guerre tant mieux, mais du coup voilà, soit avec une victoire de Kamala Harris, soit avec un nouveau mandat pour Donald Trump et la catastrophe qui s'annonce derrière. Un des arbitrages qu'il va y avoir notamment aux États-Unis pour cette élection, ça va être basé sur le droit à l'avortement, parce que dans plusieurs États, les gens vont voter donc pour la présidentielle, mais vont aussi voter pour un référendum par rapport à des lois restrictives ou moins restrictives au niveau de l'avortement. Vous le savez sûrement, on fait un tout petit rappel hein, quand même. Du coup, en 2022, donc la Cour suprême des États-Unis qui annule sa décision dite Roe versus Wade de 73, qui donnait le droit au respect de la vie privée, garanti par la Constitution américaine, qui s'appliquait du coup aussi pour l'avortement. Et donc du coup, en cassant cet arrêt, ça a renversé la garantie constitutionnelle qui protégeait donc ce droit à l'avortement dans tout le pays. Et vous avez bien suivi qu'il a fallu que quelques heures, et puis depuis cette date de 2022, à certains États, comme l'Alabama, le Missouri, mais d'autres, pour imposer une interdiction totale de l'avortement, même en cas d'inceste, de viol ou de danger pour la vie de la personne enceinte. Dans d'autres États, ont immédiatement mis en place aussi des restrictions importantes, comme l'Ohio, qui n'autorise plus l'avortement après 6 semaines. Les conséquences à long terme de ces restrictions sur l'avortement aux États-Unis sont multiples. Hein. L'augmentation fulgurante du nombre de stérilisations comme moyen de contraception, 2 ans après que la garantie de droit à l'avortement ait été supprimée. C'est une étude qui a été publiée il y a un petit moment. On a aussi du coup toute une... plein de femmes qui bougent, qui font des fois plusieurs heures de route pour aller sur un État où la législation est différente du leur, puisque du coup maintenant chaque État peut faire sa législation par rapport à ça. Et donc du coup on vous conseille du coup un petit documentaire. On avait passé des petits extraits lors d'un café libertaire qu'on avait fait au mois de septembre. On propose ce documentaire. J'arrive plus à retrouver le nom, mais vous allez voir, c'est La Grande Fracture. Voilà, avortement aux États-Unis, la Grande Fracture, qui est accessible gratuitement. Donc, on vous conseille fortement. Et je voulais en profiter pour refaire un petit point de là où on en était en France. En France, ce qu'il faut savoir là, c'est qu'on arrive le 17 janvier prochain, ce seront les 50 ans de la loi Veil. Et l'IVG n'est pas pour autant sauvé. Les avancées qu'il y a eu ces dernières années, on le rappelle en France, hein, avec un allongement du délai légal de 12 à 14 semaines, ça c'était en 2022, et avec la publication d'un répertoire des professionnels pratiquant l'IVG sur base volontaire, et ça c'est disponible dans chaque ARS, Agence Régionale de Santé. En termes de chiffres, en 2021, il y a eu 223 300 IVG pratiquées, soit un volume stable depuis le début des années 2000. Rapporté au nombre de femmes de 15 à 49 ans, ce chiffre correspond à un taux de recours à l'IVG de 15,46 pour 1000 en 2021. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même toujours des difficultés en France par rapport à l'IVG, notamment un désintérêt à l'égard d'un acte médical peu valorisé et considéré comme peu valorisant. Sur 10 années d'études en médecine, une journée, voilà, à une journée et demie est consacrée sur l'avortement. Il y a aussi la charge du maintien effectif de ce droit qui repose essentiellement sur une poignée de praticiens militants dont beaucoup se trouveront bientôt à la retraite. Il y a aussi une médicalisation stricte de la pratique de l'avortement en dépit des militantes et militants féministes qui avaient acquéri du savoir sur l'acte et dépendance au corps médical des personnes qui se font donc avorter. Le corps médical ainsi que l'hôpital public se dégrade, hein, les budgets baissent, ça on le sait aussi, et que les médecins sont réfractaires. C'est une menace directe pour le droit à l'avortement. C'est d'autant plus le cas pour les personnes LGBTI qui ont un accès plus fragile encore à la santé. C'est le cas par exemple avec des fermetures par exemple de maternité. Il y a aussi la clause de conscience dont les assos féministes militent pour sa suppression, qui est responsable de freiner l'accès à l'avortement aux femmes. Donc on le rappelle, hein, selon le code de déontologie des médecins, hors cas d'urgence vitale, tout praticien, ouvrez les guillemets, a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. On parle alors de double clause de conscience dans le cadre de l'IVG, car en vertu du code de la santé publique, un médecin, rouvrez les guillemets, n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer sans délai l'intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nombre de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. Vous imaginez bien, s'il n'y a pas de médecin qui est dispo, c'est foutu, il faut aller voir ailleurs. Donc cette clause de conscience accorde donc la possibilité au médecin de refuser donc de pratiquer un avortement. Il y a des disparités aussi territoriales qui sont reflets des politiques de santé publique. Par exemple, en France, le délai qui s'écoule entre la première demande pour une IVG et sa réalisation est en moyenne de 7,4 jours. Or, ce délai peut varier de 3 à 11 jours en moyenne selon les régions. À cela s'ajoutent les fermetures de plusieurs structures ces dernières années. Le Planning familial estime que depuis 15 ans, 130 centres d'IVG ont fermé leurs portes. Il y a aussi la dynamique de restructuration hospitalière et de spécialisation des maternités. Le nombre de maternités est passé de 814 à 461 entre 96 et 2019, ce qui a mécaniquement provoqué une baisse des centres d'IVG dans les hôpitaux publics. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 3000 à 5000 qui partent du coup à l'étranger pour se faire avorter. Ça, vous le savez bien que du coup, sous l'extrême droite, le droit à l'IVG a toujours été restreint, c'est pas une nouveauté. Et voilà, on n'est pas passé à la catastrophe en France, du coup, avant l'été dernier. Les réactionnaires et fascistes donc plient le corps de la femme au destin de la nation et au modèle traditionnel de la famille. Quelques exemples en Europe, en Hongrie, donc depuis le 15 septembre 2023, ça fait un peu plus d'un an, même pas. Les femmes qui souhaitent avorter donc sont forcées à entendre le battement de cœur du fœtus avant de pouvoir exercer leur droit à l'avortement suite à un nouveau décret donc adopté par le gouvernement conservateur de Viktor Orban. Cette dernière mesure, qui n'a aucune raison médicale, mais a le seul but d'humilier les femmes et d'accroître le stigma social dont elles sont victimes, fait suite donc à des nombreuses tentatives de la part de Fidesz de restreindre les droits sexuels et reproductifs des femmes, dont par exemple l'interdiction de vente des pilules abortives depuis 2012 en Hongrie. En Pologne, c'est l'une des lois les plus restrictives d'Europe depuis son récent renforcement. Et pour cause, depuis 2021, elle interdit l'avortement en cas de grave malformation du fœtus, même mortelle. Ainsi, elle rend l'IVG quasiment illégale, excepté dans les cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. La peine encourue pour une femme interrompant sa grossesse est de 5 à 25 années de prison. Et pour aller jusqu'à la prison à perpétuité dans certains cas. Quand même assez fou. On sait qu'aussi en Italie, par exemple, certaines régions, aide publique pour continuer sa grossesse, ça a été sucré. Il y a tout le militantisme aussi, que ce soit en France ou ailleurs, sur le militantisme catholique réactionnaire. On pense notamment à SOS Détresse, c'est un site IVG.net qui est tenu par des militants catholiques. Les gens peuvent tomber dans le panneau en tapant IVG sur Internet. Ils sont plutôt des fois mieux référencés que les vrais sites et du coup on tombe dans le panneau. Il y a aussi l'exemple du collectif Les Survivants, qui avait fait un coup de com' énorme avec le rachat du nom de domaine de Simone Veil et l'avait affilié à leur site anti-avortement lors de l'anniversaire de sa mort, ou encore qui avait collé énormément d'autocollants sur les Vélib de Paris et Si vous l'aviez laissé libre avec une photo de fœtus. Voilà, ce mouvement, l'illustration du combat encore fort contre les réactionnaires catholiques et religieux plus généralement. Il y a des ponts très clairs entre ces militants et la manif pour tous, avec des arguments qui peuvent se retrouver dans les deux cas. Et du coup là on retrouve quand même un gouvernement aujourd'hui, hein, avec Bruno Retailleau à l'intérieur et d'autres, voilà, qui faisaient partie de cette manif pour tous. Il y a eu pas mal d'attaques d'extrême droite aussi contre les plannings familiaux.
Ah oui.
Voilà, avec des tags, des casses de vitrines, etc.
J'ai vu un flash aussi d'informations sur le planning familial qui était attaqué, enfin du moins son créateur.
Exactement.
Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Ouais.
Oui, ça, donc c'est un des médecins créateurs. Ouais. Alors du coup, il y a une enquête interne, il y a un appel à témoignage du planning familial là-dessus pour savoir, parce que c'est un des premiers médecins en fait qui a été là lors de la création du planning familial et qui a suivi le planning depuis très longtemps, et du coup qui a été accusé par une femme d'agression sexuelle.
Ah d'accord.
Et qui du coup, voilà, une enquête interne a été ouverte par le planning, d'accord, avec un appel à témoignage, avec des craintes bien évidemment que ce ne soit pas la seule, ouais, et ça risque d'être utilisé bien évidemment par les réactionnaires à l'extrême droite, voilà, sur le planning familial, et je pense ce qui a, tu l'as entendu dans cette optique-là, en tout cas, je pense que ça va bien bavasser dessus. Ouais.
On ne fait pas de cadeaux en ce moment.
Ouais, c'est ça.
Ça attaque de tous les côtés.
CNews et compagnie.
Merci,
il y a aussi pas mal aussi d'attaques par rapport à tout ce qui est éducation à la vie affective et sexuelle. Parce que du coup, c'est quelque chose d'obligatoire dans la loi, dans les écoles, collèges, lycées, etc. Et voilà, par leurs opposants et opposantes, c'est présenté comme du wokisme, une idéologie transgenre et compagnie. Mais son absence et les attaques récurrentes contre ces temps d'éducation impactent directement le droit à l'avortement. Il y a aussi une rhétorique raciste contre le droit à l'avortement. Nous serions trop nombreux sur la planète selon Malthus, donc ça c'est le malthusianisme, et c'est ce qui conduit immanquablement à la misère et à un manque de nourriture lié à l'écologie intégrale car anti-avortement ici pour les blancs et blanches, mais contrôle des naissances dans les pays du sud global, voire même les personnes non blanches sur le sol français, fermeture des frontières, etc., etc. Il y a aussi la théorie raciste et complotiste du grand remplacement des blancs et blanches qui laisse tout à croire qu'il faudrait relancer la natalité des blancs et des blanches pour ne pas se faire envahir, en plus de l'appel à la guerre civile raciale, peu implicite que cette théorie du complot implique. Il y a aussi des disparités au niveau des régions d'outre-mer, voilà, ou des colonies françaises. Il y a un petit rappel quand même du scandale des avortements forcés quand même sur l'île de la Réunion durant les années 60-70. Ça, vous pouvez voir avec le livre de Françoise Vergès, « Le ventre des femmes ». Il y a l'ARS Mayotte aussi qui conseille entre guillemets depuis un an aux femmes mahoraises de se stériliser afin de réduire la surpopulation née de la situation post-coloniale de l'île. Il y a des restrictions de l'accès aux centres de PMI pour les femmes sans papier, avec des stérilisations aussi contraintes. Et ça, ça reste un peu de partout. Il y a aussi Macron avec sa fameuse rhétorique du réarmement démographique, hein, qui fait écho dans les sphères de l'extrême droite, bien évidemment. Puis je finirai du coup par rapport à la constitutionnalisation de l'IVG qui a quand même eu lieu le 8 mars 2024. À lui seul, on considère que cette liberté entre guillemets garantie par la loi, au départ ça devait être droit garanti par la loi, est un leurre des libéraux et que cela n'engage pas l'État afin de maintenir un droit à l'accès à l'avortement. Concrètement, les centres peuvent continuer à fermer, les hôpitaux à se délabrer avec toujours un manque constant de médecins. Les libéraux seront contents d'avoir ajouté une ligne dans la Constitution qui n'implique aucun changement de conditions matérielles. Un tiers des femmes ou personnes ayant un utérus, pardon, avortent au cours de leur vie et la difficulté d'en parler est encore forte. Donc voilà, un petit peu là-dessus, c'était bien de faire le petit rappel parce que, comme je disais, aux États-Unis, ça va être un des leviers peut-être qui fera basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre, et qui pourrait être complètement catastrophique en cas de victoire bien sûr de Donald Trump la semaine prochaine. Donc voilà pour cette deuxième petite page pour ma part.
Petite musique
48, on peut faire une petite musique et on finit par une deuxième page de lutte.
Ça dure pas longtemps, 2 minutes,
hein, et ben allez c'est parti.
Alors cette fois là ce soir donc ça sera le deuxième morceau en langue du Narbonnais, en fait. C'est un groupe vocal féminin, entièrement féminin, hein, 4 femmes du Languedoc. Donc, c'est le groupe La Mal Coiffée. Donc, voilà, on va écouter ça.
Allez, c'est parti.
Prima, is been good.
On a compris Révolution sociale. Vive voilà. La Révolution sociale.
Et alors, je voulais dire que c'est un texte, quand même, un texte, une adaptation, pardon, d'un discours de Louise Michel à Narbonne, le 14 juin 1881.
D'accord.
Impec. Et c'est sur le fameux petit coffret que je vous ai parlé tout à l'heure. La commune refleurira.
Ben merci bien. Donc vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires. L'émission des militantes et militantes de l'Union communiste libertaire Lyon est à 20h51. Oui. On va passer à une deuxième page de lutte sociale qui nous amènera à la fin de l'émission tout tranquillement.
Je vais te laisser un petit peu de temps
c'est comme vous
pour
voulez.
Rattraper. Ouais. Pour
rattraper, j'ai rien à rattraper.
Rappeler. Putain, ce soir,
je... Ouais, mais on va s'y remettre.
J'ai pas fouillé.
On sera là la semaine prochaine, tu vois, ça sert
on
beaucoup
sera
mieux.
La semaine prochaine. J'ai pourtant pas picolé, hein, merde.
Ça, on peut pas.
Alors, donc à Nantes, dans le 44, donc la Loire Atlantique, avec une grève au 14 octobre chez Saunier Duval, qui, entre autres productions, construit à Nantes des pompes à chaleur. Et construit également un plan social pour la suppression, enfin du moins c'est une menace pour le moment, de 30% des emplois. Or, la direction a remis en route le 2x8. On n'est pas à une contradiction près chez Saunier Duval. 16 heures de fonctionnement en deux équipes, voire selon les syndicats, un 3x8 aussi qui est en perspective. Le PSE prévoit 250 postes à supprimer. Ça a été une annonce du mois de juillet dernier. La grève est totale en protestation et suivie quasi à 100%. L'effectif quand même est de 750 personnes, tout secteur touché de l'entreprise. Et la grève était en cours encore au 28 et 29 octobre. Ubisoft maintenant, alors je sais que mon camarade en a parlé la semaine dernière pour cette lutte dans cette société de jeux vidéo avec un mouvement de grève le 15 octobre, 700 salariés et voire plus même selon STJV, c'est-à-dire le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Le premier numéro donc de cette grève date de février. Alors Ubi et Orbi, c'est-à-dire que la bah oui, j'ai fait un petit jeu de mots.
Je vois ça, mais c'est...
Enfin, y en a qui ont été à Rome aussi. Hein. C'est-à-dire que la société des jeux est à côté des clous, quoi, carrément. Les ventes baissent et les rumeurs de rachat, bien sûr, sont présentes. 4000 personnes, c'est l'effectif au total. La direction souhaite aussi revenir sur le travail, le télétravail. Deux années sans la moindre augmentation. Plusieurs sites ont vu des rassemblements, comme à Lyon notamment, selon le syndicat Sud, 50 à 100 personnes et piquets de grève pour un effort salarial demandé, exigé. Les frangins Guillemot, c'est les patrons de la... c'est une familiale, hein. Les frangins Guillemot, ils sont 5, sont subitement donc à l'étroit. Dans leur costard, la famille est principale actionnaire en plus, et avec un chiffre d'affaires quand même aussi assez rondelet, donc 2,3 milliards d'euros pour l'année 2024. Il y a de quoi voir venir quand même, mais voilà, c'est le capitalisme, c'est le capital. Il faut lutter contre, et ben c'est pas gagné. Donc maintenant, idée logistique, c'est un prestataire d'Amazon à Marseille le 14 et 15 octobre avec une grève à 3h30 du matin contre un licenciement collectif de 47 personnes. Ça veut dire contrat non renouvelé, licenciement pour faute grave aussi, en même temps, pour avoir refusé, enfin du moins les 47 ont refusé, des postes à Bolène, qui est un autre site, qui selon eux et elles, ne peut accepter autant de monde. C'est donc des propositions de reclassement bidonnées. Et puis, j'en ai une petite dernière là. Allez, tiens, Le Gaulle et Bois Rouge. C'est à La Réunion, c'était le 17-10, avec les centrales thermiques en grève. Les usines sucrières donc sont plantées. Les planteurs ne livrent plus leur récolte, c'est des cannes à sucre. Les salariés Albioma, mécontents, poursuivent au 21-10 leur grève avec la CGTR. Pas de broyage des cannes qui s'accumulent aux sucreries en compagnie, en campagne sucrière, pardon. C'est le grand moment en ce moment, oui, de la récolte et de donc la production de sucre. Les piquets de grève sont installés devant les centrales. Revendication, des conditions de travail et honnêtes et maintien des statuts. Une médiation avec le ministère des Outre-mer a été demandée via la préfecture. Alors, sans négociation, pas de reprise de production d'électricité, selon la CGTR, Port et Zedoc. Pour l'UPNA, c'est le syndicat des producteurs de canne à sucre, c'est à Tereos, donc qui est un acteur majeur du secteur agricole, de payer les dommages. Le sucrier a en 2003 déjà procédé à la fermeture de 2 sites industriels en métropole, ici dans le Nord, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais parlé, je m'en rappelle très bien moi.
c'est déjà ça.
Pour cause de réorganisation, ça avait quand même décimé 149 emplois. Et puis d'autres emplois avaient été menacés aussi dans la betterave cette fois, pas dans la canne à sucre.
Ah ouais.
Voilà. Donc c'est pour ce soir, voilà.
C'est tout bon pour vous ? Parce que moi, je vais juste faire un petit rappel, mais j'ai rien d'autre derrière, mais c'est pas très grave. On vous rappelle donc pour la semaine prochaine, donc pas ce samedi qui arrive, mais samedi prochain. Nous serons donc le 9 novembre, si je me souviens bien, une activité, un café libertaire à la librairie La Plume Noire, donc organisée par nous, hein, par le groupe lyonnais de l'Union communiste libertaire sur les luttes LGBTI. Du coup, quelle stratégie, quel type d'organisation ? Donc, on vous invite à venir en discuter avec nous. Donc, ça se passera donc samedi 9 novembre, 17h. À la librairie La Plume Noire, au 8 rue Diderot. On vous retrouve aussi ce samedi pour la permanence habituelle du samedi. Alors, toujours pareil, on vous conseille de bien surveiller les réseaux sociaux. L'ouverture, enfin, les heures d'ouverture habituelles, c'est bien 15h, 19h, mais en cas de mobilisation dans la rue, du coup, on sera dans la rue en début d'après-midi et on ouvrira, comme on le fait assez fréquemment, parce qu'il y a beaucoup de mobilisation le samedi depuis plusieurs semaines maintenant, à partir de 17h. Donc, tenez-vous bien au courant de ce qui se passe par rapport aux permanences. Si on peut ouvrir à 15h, on ouvre à 15h. Si on est dans la rue, on ouvrira du coup plutôt vers 17h. Donc, voilà, on va se retrouver tous les deux, on vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission. Ce sera de nouveau nous. Voilà, on va essayer d'enchaîner deux émission d'affilée,
on sera bien content.
Tout à fait. La semaine prochaine, 20h comme d'habitude sur Radio Canu pour l'émission Idées Noires. On refait une bise aux camarades loin de nous. Voilà, merci de nous avoir écoutés, camarades. Et puis nous, on se retrouve donc la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.
Big up Starkey. Big up Magic and all the no hats, no hoods family. Yo, yo, who's murky? Lens off MC dirty. Wanna come around? Damage. So many bars, sound boys can't manage. Push haters into a train carriage. City hoes wanna tell me about marriage. I'm a flirter, but I don't know van damage. Anybody wanna war? I'll let him have it. Aim for the face for the ting and bang it. Family G, the best crew on the planet. Learned in the game and we did not plan it. Ask Starkey for the beat on Twitter. Beans and backs, he won't let you have it. Keep on sending up on Grand Daily. Turn your potato head to a jacket. Put buff girls in doggy, then slam it. No eye contact, deep to savage. Rhyme's not hard. Fam, it's so easy, working hard, working easy, talking about you got a big